Comme chaque année, Radio Campus est partenaire du Festival des Latitudes Contemporaines qui se déroule jusqu'au 17 juin entre Lille et Bruxelles. Plus d'infos au 03 20 55 18 62 ou au www.latitudecontemporaine.com.
Bonsoir et bienvenue dans Tata Bigoudi, l'émission qui défrise l'hétérocratie. Tata Bigoudi, l'émission des flamants roses pour les tata, les bi, les goudous et les trans.
Peter Pan, c'est une fille. On l'a fait ressembler à un garçon, mais c'est une fille. On lui a simplement coupé les cheveux très courts et fait porter un soutien-gorge très serré.
Nous aimons rire et danser. Vienne minuit, quand d'autres s'endorment, nous devenons pour la nuit.
Que chaque personne puisse jouir du droit à l'indifférence, il est nécessaire que des personnes se regroupent collectivement pour énoncer qu'on peut vivre une différence.
Le couteau est la seule façon de se définir comme primé, la seule communication audible. C'est le premier pas réel hors du cercle, c'est nécessaire.
Mais il faut l'accepter comme tel, et après tout, pourquoi pas ?
Ah, pourquoi ?
Parce que nous avons...
le désir de s'affirmer dans notre impudeur.
On est forte et on a la classe.
Sois vive panthère qui en a néguère.
Dans notre petit monde.
Ouais, c'est vrai. Là. Pardon, je suis désolée.
Hey, santé.
Santé.
Bienvenue au Bercail. Bienvenue au paradis.
Eh bien, j'en suis.
Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout. Ça ne se voit pas du tout, pas du tout. Ça ne se voit pas du tout.
Bonsoir et bienvenue dans Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses. Il est 21h, suivi de quelques minutes. Et aujourd'hui, une équipe de choc, puisque nous avons avec nous Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Niette.
Bonsoir.
Lise.
Bonsoir.
Et Noémie.
Bonsoir et Caillou à la technique.
Bonsoir.
Alors, ce soir, de quoi on va vous parler ? On va vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très drôle, en fait. C'est même un peu trash, du coup autant vous prévenir tout de suite. Ça va pas forcément être une heure pleine de joie et de bonne humeur, mais c'est un sujet très important et très sérieux. On va parler des femmes trans en prison, principalement aux États-Unis, mais aussi un peu en France, avec donc la présentation d'une brochure, la lecture de quelques textes théoriques et la lecture de quelques témoignages. Voilà, c'est à peu près tout, et vu que... L'émission va pas forcément être très très drôle, on va commencer avec un morceau de musique qui, lui, pour le coup, est assez drôle. C'est un morceau de Sylvie Vartan qui reprend un titre très connu à sa sauce. Voilà. Sylvie Vartan, donc, on attend Sylvie Vartan qui va arriver d'une minute à l'autre. Voilà, on l'attend arriver. A tout de suite.
Dans ce combat qui est notre vie,
Magnifique, Sylvie Vartan qui nous a enfin appris qu'on pouvait faire quelque chose. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Vous pouviez nous appeler pendant les pauses musicales, mais comme on vous donne le numéro que maintenant, bah ce sera pour la prochaine. Je vous donne quand même le numéro au cas où il y a des gens assidus qui notent avec leur petit carnet. Et donc, vous pouvez nous appeler au 03 20 91 24 00, mais uniquement pendant les pauses musicales. Alors, on enchaîne avec le sujet dont vous a parlé Noémie au début.
Alors, donc, les femmes trans en prison. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet aujourd'hui ? Entre autres, alors pas seulement, mais entre autres, parce que très bientôt, il y a une brochure sur ce thème qui va paraître. Donc c'est un peu une avant-première, comme on dit dans le langage artistique, au cinéma, tout ça. C'est un peu une avant-première ce soir. Donc dans les prochaines semaines, sur le site infokiosque.net, alors prenez vos stylos, attention, 1, 2, 3, https://infokiosque.net. Voilà, donc sur ce site-là, il y a plein de brochures en téléchargement libre. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc très bientôt, une brochure sur la situation des femmes trans en prison avec plusieurs textes, hein, dont un texte qui est, comment dire, qui est tiré d'un film qui a été réalisé en 2005 sur la situation des femmes trans en prison aux États-Unis, dont on vous lira quelques extraits plus tard. Donc c'est principalement des témoignages. Donc ça, c'est la première moitié de la brochure. Ensuite, un autre petit texte qui explique la situation dans les fin des années 2000, on va dire. Un autre texte qui fait le lien, c'est assez intéressant, qui fait le lien entre comment les personnes sont condamnées et leur situation en prison, que Lise nous lira après. Un petit arrêt sur image publié en 2003 sur la situation de Luisa Espinoza, qui est une détenue trans sans papiers aux États-Unis. Et enfin, un texte qui parle de l'activisme abolitionniste des prisons ou pour les droits des prisonniers et quelles sont ses responsabilités face aux détenus trans. Donc voilà, ça c'est cette brochure bientôt disponible. Et pour commencer, je vais vous lire un texte de cette brochure qui s'appelle « Les privations auxquelles font face les détenus trans dans nos prisons ». Il est couramment admis que la plupart des détenus doivent faire face à des difficultés variées pour assurer leur bien-être physique et émotionnel pendant l'incarcération. Cependant, les prisonniers et prisonnières trans doivent souvent faire face à des difficultés supplémentaires et ou plus sévères en raison de leur statut de minorité de genre. Christopher Daly, du Transgender Law Center, a témoigné en 2005 devant la Commission nationale pour l'élimination du viol en prison quant aux difficultés supplémentaires auxquelles les détenus trans doivent faire face. Ses conclusions principales sont développées ici. Les préjugés sociaux contre les minorités sexuelles ont conduit à une surreprésentation des personnes trans, en particularité des femmes trans, parmi la population carcérale nationale. Les discriminations dans le monde du travail sont des facteurs aggravants. Les personnes trans qui se font refuser des emplois en raison de leur identité de genre rejoignent souvent l'économie souterraine où elles travaillent dans la prostitution et le travail du sexe en ligne ou encore accèdent à des hormones et les vendent illégalement à d'autres personnes trans qui n'ont pas les moyens d'accéder à un traitement hormonal dans un cadre médical légal. Une fois en prison, les personnes transgenres font face à de nombreuses formes d'abus en raison de leur non-conformité de genre. Ce mauvais traitement provient de l'administration pénitentiaire et des matons, autant que des autres prisonniers prisonnières, et varie en forme et en sévérité. Le genre social des prisonnières transgenres n'est habituellement pas respecté. Les personnes trans préopérées ou non opérées sont incarcérées en fonction de leurs organes génitaux sans qu'on tienne compte des caractéristiques sexuelles secondaires générées par les traitements hormonaux ou les implants. Accessoirement, ça c'est moi qui rajoute, sans qu'on tienne compte de leur genre social, tout simplement. De plus, les prisonniers et prisonnières sont constamment et volontairement réassignés par des noms et pronoms qui ne correspondent pas à leur identité de genre. Ces réassignations sont souvent le fait de l'administration et du personnel des prisons. Et essayer de les corriger est souvent puni. Alors, quand elle dit « essayer de les corriger est souvent puni », ça veut dire qu'il y a des représailles de la part de l'administration pénitentiaire ou principalement des matons. Hein. Si une personne porte plainte à cause du comportement des matons, eh ben, elle va se retrouver après brimée par les mêmes matons. Voilà, je reprends la lecture. En raison de leur statut de minorité de genre, les prisonnières trans sont particulièrement susceptibles d'être victimes d'abus physiques et sexuels, autant de la part des autres prisonniers que du personnel de la prison. Leur ambiguïté de genre en fait souvent des cibles populaires d'agressions sexuelles de la part des autres détenus, pendant que les matons autorisent, participent ou encouragent ces comportements. Parfois, pour récompenser ou payer des détenus de la population générale, alors ça c'est la population générale, c'est un mot beaucoup utilisé en anglais pour décrire, on va dire, le reste des prisonniers, les prisonniers pas trans, en gros. Du coup, on n'aura qu'à dire que pour la suite des textes, population générale, ça veut dire prisonniers pas trans. Je reprends. Parfois, pour récompenser ou payer des détenus de la population générale, les matons leur donnent libre accès à une prisonnière trans placée en isolement pour sa, entre guillemets, sécurité. On refuse aux prisonnières trans l'accès à des vêtements, des soutiens-gorge par exemple, ou des objets, des rasoirs par exemple, qui leur permettraient de s'habiller et de se préparer en adéquation avec leur identité de genre. On leur refuse aussi souvent l'accès à des ressources pourtant disponibles pour la population générale de la prison, comme des traitements contre l'abus de drogue ou d'alcool, des formations professionnelles, des activités de loisirs, etc. Pour justifier ces exclusions, les raisons invoquées sont souvent, entre guillemets, la sécurité de la détenue. Cependant, des ressources de remplacement dans un environnement sécurisé sont rarement fournies, et quand elles le sont, leur qualité est rarement, voire jamais, équivalente. Les prisonniers et prisonnières trans sont souvent séparés de la population générale des prisons, pour, entre guillemets, assurer leur sécurité. Malheureusement, le résultat le plus répandu de cette séparation est une augmentation de l'isolement social et la réduction de l'accès aux services, aux ressources, aux privilèges comme l'accès au téléphone par exemple, et des opportunités d'avoir même la plus petite interaction avec d'autres personnes. Les prisonniers et prisonnières trans sont régulièrement privés de traitements médicaux adéquats. Cela inclut souvent la privation de traitements hormonaux, même si là où le prisonnier suivait un traitement hormonal avant son incarcération, ou le manque de compétences pour faire des ajustements de dosage et ou connaître les éventuelles interactions négatives avec d'autres substances si les traitements sont poursuivis. De plus, les détenus trans sont parfois sujettes à des examens inappropriés et dégradants de leurs organes génitaux pour satisfaire la curiosité du personnel médical. Les prisonniers et prisonnières transgenres ont peu de moyens pour se protéger de ces différents types de mauvais traitements. Leur statut de minorité de genre les met dans une position particulièrement vulnérable, dans un environnement déjà tristement célèbre pour son caractère sévère et abusif. Voilà ce petit texte, originalement paru dans une brochure en anglais, disponible sur le site qzap.org, qui s'appelle Behind the Bar, derrière les barreaux, jeunesse LGBTQ en prison. Voilà.
On va faire une pause musicale, le temps de vous laisser digérer tout ça. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM, à l'écoute de Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses, et vous pouvez toujours nous appeler, et cette fois on vous donne même le numéro avant, au 03 20 91 24 00.
Bye.
écouter Homophobia, un morceau du groupe punk polonais Homo Militia, un groupe qui a joué pendant les années 90, en gros, qui est composé de PD et de Gwyn, de Pologne, donc. Et bah, c'est tout. Et donc maintenant, c'est Lise qui va nous lire un texte de la même brochure qui fait le lien entre comment se déroulent les procès de personnes trans et du coup aussi comment ça aboutit après à leur incarcération, et voilà, aux États-Unis toujours.
Oui, donc ça s'appelle Transgenre en prison, et ça a été écrit par Alex Davidson. Les plaignants et plaignantes emploient beaucoup de stratégies pour faire condamner les accusés, utilisant tout, de la preuve solide, comme l'ADN. Alors, note de la traductrice, en l'occurrence, exemple est foireux puisque la solidité de la preuve ADN a été maintes fois contestée, à des éléments moins fiables, comme des témoignages visuels. Mais qu'en est-il de l'utilisation de l'identité sexuelle de quelqu'un ou quelqu'une contre il ou elle-même ? Un groupe qui a été injustement traité par l'incapacité de notre justice à prendre en compte l'époque moderne est la communauté transgenre, composée principalement de personnes racisées provenant de milieux à faible revenu. Selon le Transgender Gender Variant and Intersex Justice Project à San Francisco, au moins une personne transgenre sur deux a été emprisonnée au cours de sa vie. Ce groupe, qui bénéficie de peu de protection par les lois locales et fédérales, est ainsi sujet à tous les virages et toutes les chicanes que peut prendre le système de justice américain. Alexander L. Lee, directeur légal du TGI Justice Project, dit qu'on étudie bien trop peu le rapport entre les condamnations à tort et l'utilisation de la transphobie pour faire condamner ses clients et clientes. Cela conduit à ce que les personnes LGBT n'aient pas droit à des procès équitables à cause de l'homophobie, de la transphobie et de la mauvaise conduite des plaignants et plaignantes. J'ai eu des clients et des clientes qui étaient... Alors c'est une citation, je précise. J'ai eu des clients et des clientes qui étaient confrontés dans leur procès à des stratégies d'accusation homophobe et transphobe. J'ai eu un client qui était un homme transgenre et il était accusé d'un crime impliquant de la fraude. Son statut transgenre a été utilisé contre lui au procès, les victimes et l'accusation, argumentant devant le juge que le fait qu'il vivait en tant qu'homme était une preuve qu'il était un menteur invétéré. J'ai eu d'autres hommes trans parmi mes clients dont l'expression de genre, durant leur procès, était transformée en problème par les plaignants et plaignantes qui cherchaient à ce que mes clients aient l'air plus prédateurs devant les jurys. Alors, quelle est la situation dans votre état ? Il n'y a pas de politique uniforme sur la façon de traiter les personnes transgenres dans les prisons. Mais partout, on utilise les organes génitaux comme moyen de déterminer le sexe de quelqu'un lorsqu'il faut décider si on l'a ou on le met dans un établissement pour hommes ou pour femmes. Ça veut dire que les femmes trans qui ne sont pas opérées, ce qui est le cas de beaucoup car la chirurgie est très chère, sont traitées comme des hommes, même si elles ont vécu en tant que femmes durant des décennies. Même chose dans l'autre sens pour les hommes trans. Examinons un état, la Californie. Le docteur Laurie Kohler, un professeur de Clinical Family and Community Medicine à l'Université de Californie à San Francisco, estime qu'il y a 400 femmes trans détenues en Californie et seulement un homme trans. La population carcérale totale de l'État est de 175 000 détenus. Kohler, qui dirige un réseau de projets de santé dans les prisons californiennes spécifiquement destinées aux personnes trans, dit qu'il n'y a pas de bonne réponse pour déterminer comment gérer les détenus trans. Début de citation. La vraie difficulté est que l'on peut parfois satisfaire certaines personnes, mais on ne peut pas supposer que les prisons pour femmes soient le meilleur endroit pour les femmes transgenres. Il y en a beaucoup qui voudraient avoir une cellule individuelle et n'être qu'avec d'autres femmes transgenres. Certaines qui voudraient être dans les prisons pour femmes, il y en a aussi qui préfèrent être dans la population générale. Tout dépend de choix de vie que les personnes ont développé en prison. Quel que soit l'endroit où la population trans de Californie est placée, le résultat n'est pas bon. Une étude, réalisée en 2007 par la docteure Valeria Genes de l'Université de Californie à Irvine, a conclu que 59% des prisonniers et prisonnières transgenres de Californie ont rapporté avoir été agressés sexuellement, contre 4% de la population carcérale générale. Le California Department of Corrections, qui a financé l'étude, n'a pas réfuté ces résultats. Un effet de ces études a été le California Assembly Bill 382, la loi sur la sécurité des prisonniers et prisonnières LGBT, qui est passé le 11 mai 2009 dans la chambre basse de l'État avec 64 voix contre 9. Le projet de loi, introduit par le membre de l'Assemblée Tom Amiano et soutenu par l'Equality California, vise à empêcher les violences contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de le système carcéral de l'État. Donc début de citation encore. Tout le monde a droit aux protections de base, et cela inclut celles et ceux qui purgent leur peine dans les prisons de notre État. Aucun ou aucune détenu ne devrait craindre pour sa vie ou être la cible de sévices à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Ce projet de loi ne résoudra peut-être pas tous les problèmes de haine contre les personnes trans, mais c'est un début. Quant à Lee, directeur légal du TGI Justice Project, il montre comme exemple responsable de ces politiques la Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Là-bas, la politique carcérale vis-à-vis des personnes trans est d'utiliser l'identité de genre comme élément principal de classification plutôt que les organes génitaux. Cela veut dire que, opérées ou pas, les femmes trans sont traitées comme des femmes, il n'y a pas de doute.
Alors, très rapidement, juste réagir un peu là-dessus. Alors, dans ce texte-là, pour moi, il y a deux choses très marquantes. Hein. Il y a la première partie où il parle quand même de comment se déroulent des procès et de comment, parce qu'une personne est trans, en fait, ça va être utilisé comme des arguments pour lui expliquer qu'en fait, elle ment. Et ça a été le cas, enfin, dans plusieurs livres où on cite des histoires de procès pour des personnes trans, c'est très très fréquent en fait. Du coup, ce qui est quand même assez fou, parce qu'en plus de ne pas être traité dignement, on peut dire, entre guillemets, par la justice, en plus, le fait d'être trans est utilisé contre les personnes. Voilà. Et l'autre chose qui est marquante aussi, c'est que... À un moment, l'auteur soulève le fait que c'est pas forcément évident que, par exemple, pour des femmes trans, les prisons de femmes soient une solution magique, miraculeuse, parce que, ben, à la base, la transphobie, elle vient des personnes cisgenres, et pas que des hommes cisgenres, aussi potentiellement des femmes cisgenres, et du coup, c'est pas forcément non plus évident que ça se passe toujours bien. Alors, du coup, ce qui est intéressant quand il cite l'Australie, c'est que c'est simplement le point de départ, en fait. Il y a, dans la plupart des pays, le point de départ, ça va être les organes génitaux, en gros, qui vont être, voilà, cette personne a un pénis, donc c'est un homme, quoi, le raccourci habituel. Alors qu'en Australie, ben, on part de cette personne est une femme, et du coup, après, on voit, donc par défaut, elle va être dans une prison pour femmes, et ensuite, on voit si ça se passe bien ou mal. Et voilà, du coup, ça ne veut pas dire que c'est forcément le miracle, mais juste de partir de ça, ça permet de voir les choses un peu justement, de manière juste. Voilà. Et par exemple, en Italie, ce qui s'est passé il y a un an de ça à peu près, il y a une prison qui a été réaménagée uniquement pour des personnes trans. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais du coup, c'est des hommes trans et des femmes trans qui sont dans cette prison. Donc c'est une solution qui a été trouvée par l'administration pénitentiaire italienne. Voilà. Les opinions là-dessus divergent.
Oui, puis la grosse différence quand même qu'il y a quand tu parlais des points de départ, c'est de si les personnes partent des organes génitaux, en fait, et que c'est institutionnalisé, ça veut dire que si on prend l'exemple de la France, par exemple, que la transphobie est institutionnalisée, alors que les mêmes institutions ne nomment même pas la transphobie pour la reconnaître comme une discrimination à part entière.
Oui, puis je pense que ce qui est important, c'est de considérer que c'est un système qui est de toute façon hyper pourri, la prison. Et que, du coup, la meilleure solution, il me semble, c'est de permettre aux personnes de choisir ce qui convient le moins mal, on va dire. Quoi. Parce que, effectivement, des solutions qui peuvent être bien pour d'autres, ça peut être vécu de façon horrible pour d'autres, en fait. Et du coup, voilà, c'est peut-être le moins pire qui me pourrait me sembler possible dans le système actuel, qui est quand même en général loin du moins pire.
On va faire une petite pause musicale et se retrouver après. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM à l'écoute de Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses. Et vous pouvez toujours nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. On se retrouve tout de suite. Merci.
T'es qu'un flic de Paris. T'es qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures ce que tu fais toi sur nos voitures. Autant qu'ils visent les monuments que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris. n'était qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées. Lorsque t'en as, tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne, crée pas tout, t'es de la pèlerine et rien en dessous de la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris. Bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? Tête les flics de Paris. Tête les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris. Même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantua, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris. Et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bougent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris.
Et voilà, c'était un petit morceau de Jehan Jonas, Flic de Paris, ça s'appelle. C'était, bon bah voilà, c'est un peu dans le thème, hein, sur les matons, les flics, même racaille quoi. Donc maintenant, on va vous lire des extraits du film Cruel and Unusual, qui a été fait sur la situation des femmes trans en prison aux États-Unis entre 1998 et 2005, je crois. Voilà. Alors, donc vu que c'est des citations, à chaque fois, on lira le nom de la personne qui parle pour que vous puissiez un peu vous y retrouver. Alors attention, ça commence. Yolanda Valentin, prisonnière trans. Ils ont mis cet homme dans ma chambre. Cette première nuit, il m'a dit « Regarde, voilà pourquoi tu es dans ma chambre, pour être ma femme et tout ça. » Il est devenu un peu violent avec moi. Il a essayé de me frapper. J'ai dit « Je ne veux pas de problème. » Je serai ta femme de prison, comme on dit ici. C'est ce qu'ils veulent tous ici. Ils veulent une jolie transgenre. C'est leur cerise sur le gâteau.
Bruce Beastlin, tu peux facilement emprisonner les gens en les mettant dans un trou dans le désert. Mais si on se prétend une société civilisée, on doit faire un peu mieux. La Constitution essayait de le poser clairement. On ne va pas être cruel avec quelqu'un ou quelqu'une parce qu'il ou elle a commis un crime.
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. 3 jours après être entrée en prison, le directeur est venu dans ma cellule et m'a dit « Tu as un pénis ou un vagin ?» J'ai dit « Un pénis ». Il m'a dit « Voyons voir ». Alors j'ai dû lui montrer. Et puis il a dit « On ne va pas te soigner ici. Il est plus que probable que tu finisses par te tuer. » Il a eu un sourire narquois. Il est sorti et voilà. Et je me suis dit « Super, je suis dans la merde. J'y suis vraiment jusqu'au cou. »
On estime que 30% des personnes transgenres aux États-Unis ont connu la prison, 3 fois la moyenne nationale.
Dean Spad, avocat. Le nombre de transgenres incarcérés est disproportionné. Ce que je veux dire, c'est que le taux d'incarcération des transgenres est disproportionné par rapport à leur nombre et au reste de la population. Et la question est, pourquoi ?
George Brown, psychiatre. C'est souvent difficile d'accéder et de rester à l'école. Difficile de gagner sa vie, car c'est encore légal de discriminer les transgenres, plus ou moins partout aux États-Unis, sauf quelques exceptions. Donc, tu peux perdre un boulot, un logement. Ce n'est pas surprenant que beaucoup de ces personnes se retrouvent marginalisées, incapables de travailler, et se tournent vers des activités à dimension criminelle. Dans tout le pays, les femmes transgenres, avec des organes génitaux mâles, sont placées dans des prisons pour hommes.
Anna Connelly, ancienne prisonnière trans. Je travaillais à l'extérieur de la clôture, en sécurité minimale. En sortant un matin, le sergent m'avait déjà fouillé et il a décidé qu'il allait le refaire devant tout le monde. Il est passé derrière moi, m'a touché les seins, m'a pincé les tétons avec ses doigts, les a fait rouler et m'a touché les fesses, les a serrés, les a claqués. Et il n'y a rien d'autre à faire que de subir. J'ai porté plainte et ils sont venus sur mon lieu de travail me dire que je ne quitterai jamais la prison vivante.
Ophelia Delonta, prisonnière trans. Une fois que les gens savaient qu'une femme était dans la prison, ils venaient tous voir. J'ai été poignardée deux fois par des gens parce que je n'ai pas voulu avoir de relation avec eux.
Yolanda Valentin, prisonnière trans. Les types ici pensent que je devrais les satisfaire sexuellement. Et on se sent tellement faible qu'on n'a rien à redire là-dessus. Et tu ne veux pas que ça se sache parce que sinon tu fais tes 25 ans au mitard. Alors c'est très dur. Les gardiens ici se foutent vraiment de tout. Ils sont très laissés faire. S'ils voient quelque chose, ils font un rapport. S'ils ne le voient pas, ils s'en lavent les mains. Ça se passe comme ça ici.
Une personne sur 10 est violée dans les prisons d'hommes. Il n'y a pas de statistiques sur les viols subis par les prisonnières transgenres.
Yolanda Valentin, prisonnière trans. Tout ça n'a pas été communiqué au psychiatre ici. Personne n'en sait rien. Un jour, j'étais dans ma cellule et un des prisonniers est entré. Il a ouvert la porte et il est entré et il a fait des choses. Il m'a pénétré, sans mon consentement. Je me débattais, je lui disais « je ne veux pas faire ça ».
Patty Louagan, ancienne prisonnière trans. Les choses qui arrivent aux gens en prison ne sont pas les plus jolies du monde. Dans la société, ils ne veulent pas le savoir. Tu n'es qu'un morceau de chair, un corps, un nombre. C'est vraiment tout. Beaucoup de prisons placent les transgenres en détention préventive pour éviter la violence et les viols. En détention préventive, vous êtes seul, dans une pièce, 23 heures par jour. On l'appelle aussi isolement. C'est une punition, en plus de la punition, parce que vous êtes transsexuel.
Yolanda Valentin, prisonnière trans. Oh, je suis allée en prison. J'ai passé environ un an en isolement, 24 heures sur 24. C'est juste une pièce, rien qu'une pièce. Tu n'as rien d'autre que ton lit, ta fenêtre, que tu ne peux pas ouvrir pour aérer. Tu te sens comme un animal. La pièce a une sorte de grande fenêtre d'où on peut te voir. C'était amusant pour eux de voir cette personne dans cette pièce devenir cinglée. Tout le monde rigolait. Hey, regarde le PD, regarde l'homo.
Plusieurs procès ont contesté la pratique de l'isolement à long terme. En 1988, un tribunal fédéral a statué. Isoler une personne année après année, ou même mois après mois, peut causer des dégâts psychologiquement importants.
Anna Connelly, ancienne prisonnière trans. La première fois que j'ai été arrêtée, ils m'ont retiré ma cure d'hormones. J'étais en descente sans soins médicaux ou psychologiques, et ils m'ont mis à l'isolement pour vivre l'état de manque des hormones toute seule.
Certaines prisons fournissent des hormones aux personnes qui ont une ordonnance antérieure à leur incarcération, mais la plupart ne le font pas. Dean Sped, avocat. Les soins médicaux pour transgenres, qui relèvent d'un domaine particulier, sont très méconnus en prison. Bien qu'il s'agisse de traitements médicaux établis pratiqués depuis des années, on se heurte à un refus catégorique. Dana Sicocello, éducatrice. Quelqu'un qui est une transgenre, surtout qui a déjà pris des hormones, si vous les lui retirez brusquement, vous ôtez quelque chose dont le corps dépend. Vous ôtez une hormone dont le corps a besoin pour fonctionner correctement.
Anna Connelly, ancienne prisonnière trans. Quand ils m'ont ôté l'œstrogène, c'était comme si j'allais m'arracher la peau du crâne et sortir de moi-même. Je ne pouvais pas le surmonter. C'est une sensation très difficile à décrire. C'était comme une bouffée de chaleur en permanence, et des maux de tête, et des nausées, et une très très sévère dépression. J'avais des douleurs au sein. Je ne pouvais pas le supporter. C'était comme si tout allait mal. Tout en moi allait mal. Au bout d'un moment, je n'ai plus pu supporter ce qui m'arrivait et je voulais juste que ça s'arrête. Et j'ai pris le drap et je l'ai attaché à mon lit. Et je me suis courbé et j'ai fait de l'hyperventilation. Je me suis relevé rapidement et j'ai noué le drap autour de mon cou et je me suis pendu avec. Ils m'ont trouvé et ils m'ont laissé sur le sol de la cellule pendant 7 heures. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard. Ophelia Delonta. Prisonnière trans. Ma plainte contre le département correctionnel de Virginie comprend le manque de soins à mon égard et leur interférence dans un traitement que je prenais.
Victor Glasberg, avocat de Ophelia Delonta. Ophelia était, de façon intermittente, sous traitement hormonal jusqu'en 1995. Et en 1995, l'ex-directeur du département correctionnel de Virginie, le Dr Smith, a émis un mémo dans lequel il disait « On ne fait pas d'exception. Les personnes avec un... tiges ne sont pas soignées. Pas de traitement pour les troubles de l'identité de genre. » C'est fou.
Peter Viette, avocat de l'administration pénitentiaire. Donc lui, c'est le méchant. Michael Stokes, sous le nom d'Ophélia, a intenté un procès, toute seule, sans avocat. Et le bureau du procureur de Virginie a demandé que notre cabinet représente les accusés médicaux. Nous avons demandé un non-lieu, faute de preuves. Le juge, d'une certaine manière, était d'accord avec le fait que ce n'était pas un droit constitutionnel d'avoir ce traitement, et il a rendu un non-lieu. Ophélia de Lonta, prisonnière trans. Ce verdict m'a poussé à faire quelque chose par moi-même. Je pensais que peut-être si je commençais, il devrait terminer. Je voulais m'ôter les testicules pour stopper les hormones, la testostérone. De toute façon, je me disais que je n'aurais même pas dû en avoir.
Rebecca Glenberg, American Civil Liberties Union, en Virginie. Quand on a commencé à prendre cette affaire en main en 2000, j'ai regardé les dossiers médicaux d'Ophélia et j'ai relevé chaque incident où elle s'était automutilée aux parties génitales. Le 22 février 96, automutilation du scrotum à la lame de rasoir. 21 mai 96, 5 lacérations de 1 à 2 cm et demi. 21 mai 96, plus tard, le même jour, automutilation du scrotum encore. La liste de ces incidents ne fait que continuer.
Peter Viette, avocat de l'administration pénitentiaire. Ce sont des problèmes de comportement chez ce prisonnier. Ça suggère que les automutilations pourraient ne pas être liées à un trouble de l'identité de genre, mais simplement à un comportement manipulateur. Voilà quelqu'un qui était un prisonnier difficile à beaucoup d'égards, en dehors de son problème de genre. Ce n'est pas une conclusion évidente qu'un traitement du trouble de l'identité de genre aurait mis fin à l'automutilation des parties génitales ou que ces mutilations venaient d'un manque de ce traitement.
Victor Glasberg, avocat de Ophélia de Lonta. Mon point de vue personnel sur cette affaire, c'est que ça ne fait aucune différence. Si l'État gère un hôpital psychiatrique pour des prisonniers ou des prisonnières totalement fous furieux, elles ne doivent pas s'automutiler. Il est inadmissible qu'il ou elle se pende ou torture les autres prisonniers. C'est tout. George Brown, psychiatre. J'étais en charge d'une affaire en Idaho. La détenue a essayé plusieurs fois, par voie officielle, d'avoir un traitement pour trouble d'identité de genre, qui était constamment refusé.
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. Je connaissais des crises de dépression, des hauts, des bas. Quand j'étais déprimée, je pensais au suicide.
Léa Cooper, avocate de Linda Thompson. Elle a commencé à demander un traitement hormonal, et on le lui a refusé, de manière répétée. Il ne s'agit pas d'un besoin médical, les hormones sont facultatives. Linda est très intelligente. Elle comprenait comment ça devait se passer, qu'il fallait leur faire admettre que c'était une maladie, qu'ensuite, on pouvait demander un traitement. Elle leur a écrit pour leur demander s'ils reconnaissaient le transsexualisme comme maladie. On lui répondit « On ne reconnaît pas le transsexualisme en tant que maladie. Et si j'ai mon mot à dire, ce ne sera jamais le cas. »
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. « Je suis hors placard depuis 7 ans, et ils m'ont retiré tout ça. » C'était vraiment déprimant. Pour eux, c'est un choix de vie. Je n'aime pas regarder cette chose, la sentir, la laver. J'en suis venue à en être dégoûtée. J'ai dit au psychiatre en 1998 « Traitez-moi ou je vais me couper ce truc. » Il disait « Ce ne sont que des mots, personne ne peut couper, c'est pour attirer l'attention. » D'accord. Le 18 mars 2000, je me suis assise et me suis coupée les couilles.
George Brown, psychiatre. La détenue a été évacuée vers un hôpital, transfusion de sang, réanimation. Ça a probablement coûté 50 ou 60 000 dollars pour la soigner et la remettre en prison. Et toujours aucun projet de traitement.
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. Quand j'étais à l'isolement, le directeur et son adjoint sont venus dans ma cellule et m'ont dit « Vous avez donné un vrai spectacle ici !» Vous voyez le genre, ha ha ha. Avec 12 flics dans ma cellule, ils rigolaient tous.
Léa Cooper, avocate de Linda Thompson. Ils l'ont obligée à se montrer à eux pour qu'ils puissent rire de ce qu'elle avait fait.
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. Je leur ai dit « Vous avez 365 jours pour me soigner. Si vous ne le faites pas, je coupe le reste. » Ils ont dit « On ne le fera pas. »
Bruce Bislin, avocat de Linda Thompson. La mentalité de la prison est « Cette femme veut nous manipuler, prendre l'avantage sur nous, ne la laissons pas nous contrôler. » Peut-être qu'on peut penser ça avant la première automutilation, mais après, ne doit-on pas se dire « Ouh là là, peut-être qu'en fait... »
Linda Thompson, ancienne prisonnière trans. Je me suis assise avec la lame de rasoir, sans anesthésiant, ni drogue, ni rien, pour couper. J'ai pris la lame et commencé à couper. J'ai sonné l'alarme. J'ai été 5 jours à l'hôpital et ils m'ont remise en prison. Mais ils m'ont encore refusé les hormones. Et c'est ainsi que ça s'est fini. Un centimètre de plus et j'utilisais un tube pour pisser le reste de ma vie. J'aurais dû le faire 30 ans plus tôt. Quand j'ai coupé, c'était comme si 100 000 tonnes de haine et d'animosité envers moi-même s'enlevaient de mes épaules.
Léa Cooper, avocate de Linda Thompson. Linda ne pouvait pas se blesser plus. Je ne sais pas comment elle a trouvé la force de porter plainte, mais c'est arrivé devant les tribunaux. Linda a gagné son procès contre le département correctionnel de l'Idaho. Elle a été conduite dans un établissement médical où elle a reçu des hormones.
Linda Thompson. Il y a une politique médicale établie pour les transsexuels dans l'Idaho maintenant. Et toutes les filles qui y vont devraient le savoir.
On va faire une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM à l'écoute de Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses. Et vous pouvez toujours nous appeler pendant la pause musicale au 03 20 91 24 00.
Some girls, they got natural ease. They wear Okay, everybody. Put on some makeup. Turn on the 8-track. Now I'm pulling away down from the show.
C'était Wig in a Box, une perruque dans une boîte. Extrait du film Hedwig and the Angry Inch, le premier film de John Cameron Mitchell. Voilà. Donc, très rapidement, pour terminer encore sur ce sujet, je voulais revenir sur quelques petites choses qui ont été dites dans les témoignages qu'on vient de lire avant, et aussi parler rapidement de la situation en France. Du coup, simplement, par rapport aux témoignages... qu'on a lu avant, si en plus vous êtes des habitués de Tata Bigoudi, vous avez vous dire mais c'est bizarre quand même, des personnes qui sont trans, qui parlent de maladie, de la transidentité, ce serait une maladie qu'il faudrait soigner, il faut des médicaments pour ça, qu'on demande à l'administration pénitentiaire. Alors, tout simplement, nous on veut préciser une chose. Alors si effectivement... dans le cadre d'une lutte globale contre la transphobie, il est tout à fait hors de question de considérer que la transidentité est une maladie et que donc il n'y a rien à traiter, il n'y a rien à soigner, il n'y a pas, enfin voilà quoi, il n'y a pas à faire pitié pour qu'on soit gentil avec nous quoi. C'est très bien d'être trans et puis c'est pas une maladie. Ceci dit, dans le cadre où on est déjà en position de faiblesse parce qu'on est incarcéré, parce qu'on est détenu dans une prison. Il faut bien voir que la seule arme qui reste aux personnes qui sont détenues pour espérer obtenir un traitement hormonal ou voir des chirurgies, c'est de faire reconnaître par l'administration que c'est une maladie. Du coup, il faut pas croire non plus que l'administration qui ne reconnaît pas cette maladie, c'est parce que c'est des personnes qui ont trop la classe et qui sont pas du tout transphobes. Hein. C'est juste que moins ils dépensent de sous, plus ça les arrange. Du coup, voilà. Et donc voilà, c'était juste pour préciser là-dessus. Il y a la différence entre quelle est la lutte globale qu'on mène contre la transphobie et où donc il n'est pas question de parler de maladie, et les intérêts immédiats des prisonnières, où là, le fait de parler de maladie, ça peut leur permettre d'avoir un traitement, et ben dans ce cas-là, il faut le faire, et puis c'est tout. Après, c'est sûr que l'idéal, ce sera qu'il n'y ait plus de prison et plus de transphobie, mais en attendant, on n'y est pas encore. Donc encore, très rapidement, je vais vous parler de la situation en France, en plus ou moins en 2010, alors ça va être assez rapide, hein. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a pas non plus de moindre protection légale contre les discriminations liées à l'identité de genre. Hein. La transphobie n'est pas reconnue officiellement par le gouvernement, toujours pas. Les personnes trans sont incarcérées dans des prisons. Les femmes trans sont incarcérées dans des prisons pour hommes et les hommes trans sont incarcérés dans des prisons pour femmes. Il y a à Fleury-Mérogis, donc une des prisons, je crois que c'est un centre de détention à Fleury-Mérogis. Oui, c'est un centre de détention. Il y a un petit morceau du quartier des hommes, donc on est bien dans le quartier des hommes, qui est réservé à quelques détenues femmes trans. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est dans une prison pour hommes, mais du coup, il y a un endroit où elles sont pas à l'isolement, mais où elles sont, où il y a plusieurs femmes trans entre elles. Sinon, globalement, les traitements hormonaux sont aussi refusés, tout comme l'accès à des chirurgies. Après là, je ne vais pas revenir dessus. Hein, vous douterez que les agressions de la part des autres détenus, de l'administration présidentielle, pénitentiaire et des autres matons, des matons tout court. Oula, c'est bien, ça commence à faire un moment là. Et des matons, eh ben, ces agressions-là ne sont absolument pas. Enfin, il n'y a aucune statistique qui existe là-dessus. Hein, donc, c'est sensiblement la même chose. Rapidement, on peut parler qu'à Caen, depuis plusieurs années, il y a une femme trans qui est incarcérée, qui se bat depuis des années pour intégrer une prison pour femmes, tout simplement. Et aussi pour obtenir un traitement hormonal et des chirurgies. Voilà, ça fait des années qu'elle se bat, qu'elle est dans la galère et qu'elle en chie. Sans que pour l'instant ça n'ait abouti à grand chose, à part le fait que pendant une petite période elle a été transférée de la prison à l'hôpital pénitentiaire. Voilà, quelle victoire. Et voilà, c'est à peu près tout sur la situation en France. Voilà, globalement, rien de bien mieux et sensiblement les mêmes choses que ce qu'on vous a lu tout à l'heure. Donc c'en est fini pour ce sujet. Ben voilà, et on va passer à l'agenda que Marie va nous faire.
Oui, que dire après ça, à part l'agenda en effet. Donc vous pouvez toujours retrouver le mercredi l'AG des Flamants Roses de 20h à 23h, ou un peu plus tôt, ou un peu plus tard. Le jeudi, il y a le bar. Oui.
Mais pour l'âge des Flamants Roses, à partir de 18h30, il y a aussi un accueil.
Oui, exactement. Merci, Elise.
Et puis ça, il ne faut pas l'oublier, parce que quand c'est la première fois qu'on passe, des fois, on n'a pas forcément envie de se taper une réunion, que c'est un petit moment un peu plus sympa, où il y a des personnes qui sont vraiment là spécialement pour accueillir tout ça.
Merci, Caillou. Donc, je reprends. Le jeudi, il y a le bar, de 18h à 22h30. Et le dimanche, eh ben, il y a sur Radio Campus l'émission des Flamants Roses, Tata Bigoudi, de 21h à 22h. Le 25 juin, pour ceux qui sont libres, il y a toujours la Gay Pride. Il n'en est pas fini avec les Gay Pride. Il y a toujours la Gay Pride de Paris. Et le 3 juillet, c'est la Gay Pride de Cologne, pour ceux qui peuvent ou qui veulent y aller. Et on rappelle en fait qu'il y a les universités d'été euroméditerranéennes, les UEEH, des homosexualités, pardon, à Marseille du 7 au 24 juillet. Voilà, merci.
Et justement, les UEEH, on vous en parlera plus longtemps la semaine prochaine sur Tata Bigoudi, hein, donc sur l'antenne de Radio Campus. On vous en reparlera plus longtemps parce que il y aura une invitée du CA qui sera dans le studio.
Voilà, c'était Tata Bigoudi, l'émission des Flamants Roses sur Radio Campus 106,6 FM. On va vous laisser avec Killing Machine, votre émission de hard rock préférée, et on va vous laisser en écoutant Jesse J avec Do It Like a Dude. Voilà, au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir.
Hey, 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 yeah, Jesse J. Stomp, stomp, I've arrived. Drop the beat, nasty face, why you looking at me? Flying, 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 flying through the sky. In my spaceship, I'm an alien tonight. Dirty, 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 dirty sucker. You think I can't get hurt like you, you mother? I can do it like a brother, do it like a dude. Wear my crutch, wear my hat low like you. Do it like a brother, do it like a dude. Wear my crutch, wear my hat low like you. Do it like the man, them, hey. We can do it like the man, them. Sugar, sugar, sugar. We can do it like the man, them. Hey, we can do it like the, yeah. Listen, bong, bong. Hey, pour me a beer. No pretty drinks, I'm a guy out here. Rolling, rolling, rolling money like a pimp. My bitch.